BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Sandra Gandoin.
Bonjour à tous, bienvenue dans 60 minutes business. On est ravis de vous retrouver avec Jean-Marc Daniel. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Au sommaire de ce mardi 6 décembre, on va vous parler de l'augmentation moyenne des salaires qui devrait dépasser les 4% en 2023 dans 7 grandes économies de la planète. États-Unis, Chine, France, Allemagne, chiffre du cabinet Willis Towers Watson. En pleine période de NAO, de hausse de salaire stratosphérique aux États-Unis. On va en parler avec Jean-Marc et avec Antoine Lard. Pourra-t-on se passer du gaz russe? On va parler de cette étude très pessimiste de The Shift Project de Jean-Marc Jancovici qui estime que l'Europe va cruellement manquer de gaz si la Russie ne reprend pas ses livraisons d'ici quelques années. On fera un focus avec Mathieu Pechberti dans 5 minutes. Et puis, il est très souvent cité dans les rapports du GIEC comme une solution intéressante pour séquestrer, retenir le carbone et limiter le réchauffement climatique. On parle du biochar. On va en parler aujourd'hui avec notre invité Stéphane Le Dentu, fondateur et PDG du groupe forestier français SLB qui sera avec nous dans une dizaine de minutes. Et puis à 12h30, Lorraine Goumeau va nous rejoindre. De quoi on parle aujourd'hui, Lorraine?
On va parler de la bonne prise de parole du dirigeant, de la dirigeante. Comment parler, à qui parler, où parler, toutes les questions sur la communication de celui ou celle qui dirige une entreprise ou une chose entreprise.
Voilà, ce sera dans une demi-heure. Merci Lorraine. Tout de suite, c'est le journal. Et on commence avant de parler des salaires, de la réforme des retraites, les syndicats qui préparent la riposte. Hein, tous étaient réunis hier soir en intersyndical et le communiqué publié à l'issue est on ne peut plus clair. Ils se tiennent prêts à des mobilisations en cas de recul de l'âge de départ à la retraite. Caroline Morisson.
Si le gouvernement s'obstine, ça va être chaud, prévient l'un des participants à la réunion. Tous les syndicats sont en effet sur le pied de guerre. Voilà des semaines qu'ils sillonnent la France pour mobiliser leurs troupes. En moins de 3 mois, IFO a fait plus de 180 déplacements en région. D'autres ont posté des vidéos sur leur site internet. Ils ont même ressorti leur stock de doudounes estampillés de leur logo. En clair, ils se tiennent prêts à descendre dans la rue. Derrière, les militants sont remontés à bloc et les caisses de grève sont suffisamment remplies pour bloquer le pays pendant plusieurs jours, nous disent-ils. Le sujet n'est pas de savoir si les militants se mobiliseront, mais de les convaincre de ne pas y aller dès maintenant. Les responsables syndicaux le savent, pourrir les fêtes de fin d'année risquerait de se retourner contre eux alors que l'opinion publique va dans leur sens. Les Français sont majoritairement contre le recul de l'âge de départ. Aucune date n'a été arrêtée pour lancer les hostilités, mais l'ensemble des responsables syndicaux se réuniront le jour même des annonces. Et si le gouvernement campe sur ses positions, alors la réponse sera à la hauteur de la provocation. Nous dit l'un d'eux, l'ensemble des syndicats appelleront dès janvier à des grèves et à des manifestations.
La réforme qui n'est pas passée lors du premier quinquennat va-t-elle passer lors du deuxième?
Alors c'est pas exactement la même réforme, donc on verra quelle sera la mobilisation. Je crois que c'est un peu l'heure de vérité pour les syndicats. Ouais. Sur un sujet où normalement ils ont plutôt le soutien de la population, s'ils n'arrivent pas à faire de grandes manifestations, pas à faire des grèves un peu significatives, ça montrera effectivement que le monde syndical a bien changé depuis les années 50.
Ouais, effectivement. On parle des salaires, comme promis dans cette émission. L'augmentation moyenne des salaires devrait dépasser les 4% en 2023. Dans 7 grandes économies de la planète, États-Unis, Chine, Allemagne, France, chiffre du cabinet Willis Towers Watson. L'étude a été menée du 3 octobre au 4 novembre auprès de 25 000 entreprises dans 135 pays. 4% donc. Pourtant, dans certaines situations, les NAO s'annoncent très tendues. Un nouvel appel à la grève aujourd'hui, cette fois c'est chez RTE, le réseau de transport d'électricité, à la veille d'un dernier round de négociations salariales, justement. Une grève qui pourrait perturber les travaux de maintenance, préviennent les syndicats. Compliqué peut-être les NAO qui sont en
c'est
ce moment.
Hein, alors, on est dans une situation un peu paradoxale. Vous savez, André Bergeron, qui était le responsable de Force Ouvrière, regrettait l'inflation parce que l'inflation, ça donnait du grain à moudre. On pouvait donner des hausses de salaire aux syndicats et aux salariés sans que les entreprises soient trop affectées puisqu'elles augmentaient leurs prix dans la foulée. Donc là, on pourrait penser qu'on est revenu à cette situation. En fait, non. On est dans une situation où l'inflation étant importée, les hausses de salaire doivent être malgré tout regardées avec beaucoup de vigilance.
Maîtrisées
par les entreprises. Et donc, je pense qu'on est dans une situation qui est extrêmement variée et extrêmement diverse d'un pays à l'autre et au sein de chaque pays, d'un secteur d'activité à l'autre.
Exactement. On va regarder justement ce qui se passe aux États-Unis, Jean-Marc. Les pilotes de Delta, particulièrement choyés, ils viennent d'obtenir des hausses de salaire massives, plus de 30% de revalorisation. Alors que le trafic aérien est reparti en flèche, les compagnies manquent de bras, les pilotes sont en position de force et ça se voit. Explication à Washington d'Antoine Lard.
Ça faisait plusieurs mois que les syndicats de pilotes négociaient avec la direction de Delta et ils ont fini par obtenir des hausses de salaire spectaculaires, plus 34% sur 4 ans. Delta devient la compagnie américaine qui paye le mieux ses pilotes. Tout cela va lui coûter cher, 7,2 milliards de dollars supplémentaires. Alors les discussions ont été très tendues, il y a eu des menaces de grève, mais la direction a fini par céder parce que le rapport de force est clairement en faveur des pilotes. Depuis la fin de la pandémie, le trafic aérien est reparti rapidement à la hausse et les compagnies qui avaient taillé dans leurs effectifs pendant le Covid recrutent désormais à tour de bras pour absorber la demande. Les pilotes sont devenus une main-d'œuvre rare et donc forcément ils sont en mesure de faire monter les enchères. Alors cet accord pourrait désormais faire tache d'huile et pousser l'ensemble du secteur à s'aligner. Des négociations sont d'ailleurs en cours chez les deux autres grandes compagnies américaines, United et American Airlines. Là aussi, les discussions sont serrés. Chez American Airlines, par exemple, la direction propose 20% d'augmentation, une offre rejetée par les syndicats qui la jugent insuffisante.
30% chez Delta, Jean-Marc.
Oui, mais c'est sur 4 ans. Et donc, peut-être que sur 4 ans, si on garde le même rythme d'inflation, ce sera juste le maintien du pouvoir d'achat. En réalité, effectivement, l'inflation va se dégonfler et les pilotes auront été assez bien traités. Mais c'est un secteur qui est extrêmement compétitif, extrêmement concurrentiel. Les compagnies aériennes aux États-Unis changent assez souvent, hein, donc Delta, ça devient une des plus anciennes. Celles de notre, enfin de ma jeunesse, la Pan Am, la TWR ont disparu.
Oui, elle est très utilisée, Delta.
Oui, et Delta est très utilisée. Et donc, en plus, sur un marché qui est un marché qu'on avait annoncé en recul et qui se révèle être totalement en expansion. Et donc, Delta ne veut pas perdre sa position, sa part de marché, et donc est prête à faire des sacrifices. Oui. En fait, pour Delta, le pari, c'est sur de combien évolueront les prix dans les 3-4 ans qui viennent. Si on maintient l'inflation actuelle, ce que je ne pense pas, mais ce qu'ils peuvent espérer, entre guillemets, ce ne sera pas si coûteux que ça.
On verra, effectivement. Allez, c'est l'heure de notre focus. Pourra-t-on un jour se passer du gaz russe? On voit ça avec vous, Mathieu Pechberti, avec cette étude pessimiste du think tank de Jean-Marc Jancovici, The Shift Project, qui estime que l'Europe va cruellement manquer de gaz si la Russie ne reprend pas ses livraisons d'ici quelques années, peut-être même quelques mois. Le scénario pessimiste affirme que sans gaz russe, il faudra baisser notre consommation de 40%, Mathieu.
C'est énorme, hein.
Ouais, c'est inimaginable.
Ce black scénario, le scénario du pire de cette étude. Alors bon, il faut quand même être mesuré. Ça dépend des paramètres. Et puis le 40% n'est pas gravé dans le marbre. Mais ce qui est intéressant, c'est de montrer que si on reste dans une économie de pénurie de gaz russe, l'Europe restant encore aujourd'hui, hein, très dépendante au gaz russe, ça ne tiendra pas sur la durée, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il y a quand même encore quelques approvisionnements de gaz en Europe, notamment en Norvège, qui sont en train de diminuer. Oui. Aussi parce que le GNL, alors on a eu beaucoup recours au GNL depuis le début de la guerre, hein, et ça va sauver notre hiver, entre guillemets, hein, du GNL provenant des États-Unis essentiellement et du Qatar. Mais le GNL, entre guillemets, n'est pas éternel. Il n'y a pas des ressources illimitées. Il y a quand même des champs qui vont être élargis au Qatar, aux États-Unis, au Mozambique, en Iran même. Mais on n'est pas les seuls acheteurs de GNL, hein. L'Europe, il y a évidemment les Asiatiques, en tout cas la Chine, mais aussi la Corée et le Japon qui achètent énormément de gaz, et donc on va se faire concurrence et il n'y aura pas assez de GNL sur le marché. Et puis alors, en plus, effectivement, les prix vont monter, donc il y a un moment donné où il risque d'y avoir un trou, et c'est effectivement, cette étude met le doigt là-dessus, c'est a-t-on finalement les moyens de continuer cette guerre et de se passer pendant plusieurs années de gaz russe? La réponse est non, sauf au prix d'achat d'énergie très fort ou d'efforts sur la consommation très important.
Quelles conséquences sur notre économie en Europe, Mathieu?
Alors c'est effectivement le deuxième point que cette étude montre. C'est pas le coût sur l'économie européenne. Il n'y a pas de chiffre sur l'impact sur le PIB ou la baisse de croissance. Bon, on voit bien que on va flirter ou on va être en récession en 2023. Enfin, ça vous le dire, Jean-Marc. Mais l'impact sur l'économie européenne, c'est de la baisse de la demande, ce que les économistes appellent de la destruction de demande. La destruction de demande, c'est des usines qui ferment, des entreprises qui ferment, des secteurs industriels sinistrés. Si on reste dans cette situation à moyen terme, donc à horizon 2 ou 3 ans. On l'a entendu beaucoup cette semaine, le débat entre Emmanuel Macron et Joe Biden sur l'importance des subventions américaines à l'énergie, alors que nous, en Europe, on reste en tout cas sur des boucliers tarifaires pour les ménages. C'est ce débat-là. Donc, si on reste dans cette situation de se priver de gaz russe, en tout cas, l'économie européenne va énormément souffrir. Et donc, ça rouvre la question, Est-ce qu'on n'a pas plutôt intérêt à terminer cette guerre en Ukraine pour reprendre les importations de gaz russe dans quelques années?
On est bien d'accord. Jean-Marc.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que le gaz, il y a encore un an, c'était la catastrophe. D'abord, on en avait trop. Si on le brûlait tout, on serait asphyxié par la hausse des températures. Il fallait arrêter de prospecter. Je rappelle qu'il y a 10 ans, au moment du rapport Gallois, quand Louis Gallois proposait d'aller chercher du gaz de schiste dans le Massif central, on lui avait répondu, mais pas du tout. Il y a pléthore de gaz au travers de la planète. On va pas se mettre à créer des mines et des champs d'exploitation du gaz en France, alors qu'il y a tout ce gaz qui est en abondance. Alors, quel est le changement? D'abord, on évacue rapidement en ce moment toutes les considérations écologiques. C'est moins à la mode parce qu'il y a en face une réalité qui est la réalité, qui est le niveau de vie, la vie au quotidien. Et en situation de guerre, le niveau de vie baisse. Mmh. Je rappelle qu'en 1949, on avait juste le niveau de vie de 1913. Mmh. On avait juste réussi à récupérer ce qui était la situation de 1913. Donc, je n'appelle pas et je n'espère pas que notre pays va connaître un effondrement du niveau de vie comme on l'a connu pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Mais si on parle de guerre, il faut qu'il y ait des conséquences. Donc, je pense qu'il faudrait que nos dirigeants, au lieu d'employer des mots forts mais de ne pas en tenir compte, utilisent un discours de vérité et nous disent effectivement quelles sont les restrictions qui seront au rendez-vous, quels sont les efforts qu'il faudra faire et quel est le prix auquel il va falloir qu'on paie notre gaz et notre essence dans l'avenir.
Ouais, c'est un petit peu la mission que s'est donnée le Shift Project. Merci beaucoup en tout cas Mathieu Pechberti pour ce focus. C'est l'heure de l'édito de Jean-Marc.
BFM Business, 60 minutes business, l'édito de Jean-Marc Daniel.
Jean-Marc, vous revenez sur cette décision du Sénat qui a voté hier une réduction de 200 millions d'euros des crédits accordés à l'aide publique au développement dans le projet de budget 2023 pour maîtriser les dépenses publiques, Jean-Marc.
Exactement, oui. Donc le Sénat, soudain, qui est prêt à financer les collectivités locales, qui est prêt à financer tout un tas de mesures pour justement éviter que nous subissions les conséquences des événements géopolitiques. Le Sénat vient de s'apercevoir qu'il fallait appeler les pays en voie de développement, les pays émergents que nous soutenons, il fallait les appeler à faire de preuve de retenue et donc à supprimer 220 millions. Alors 220 millions, c'est sur l'aide publique au développement. L'enveloppe d'aide publique au développement, c'est 13 milliards environ. L'OCDE n'en reconnaît que 12 sur les 13 milliards parce qu'il y a des critères très précis pour savoir ce que c'est qu'une aide publique au développement. Et il y a un objectif qui est un objectif ancien, qui a été mis en avant dans les années 60, mais qui a toujours été confirmé, rappelé régulièrement par les réunions de l'OCDE, c'est de 0,7% du PIB consacré à cette aide publique au développement. Et nous sommes à 0,55%, donc nous sommes en dessous de l'objectif que nous affichons. On est à une aide publique au développement qui est deux fois moins importante que celle de l'Allemagne, par exemple. Et donc, on est plutôt en la matière, non pas un mauvais élève, mais un élève peu mieux faire, mettrait en commentaire un professeur qui évaluerait notre aide publique au développement.
Mais en quoi elle est essentielle?
Alors, je crois que c'est une erreur de négliger ça pour deux raisons. La première raison, c'est que la hausse des taux d'intérêt est de nouveau en train de plonger tout un tas de pays émergents dans une situation financière dramatique, y compris d'ailleurs des pays qui sont producteurs de matières premières et qui pourraient être considérés comme relativement abrités. Le prochain drame, c'est le Mozambique. Le Mozambique est un producteur de charbon. Il a profité de l'embellie du marché du charbon à un moment donné. La baisse des cours est en train de le frapper de plein fouet et donc le Mozambique va être en cessation de paiement. En Afrique, la République démocratique du Congo, qui est le principal pays, est aussi dans une situation extrêmement délicate. Tous les pays ont besoin, effectivement, de remettre de l'ordre dans leurs finances. Une des raisons, c'est qu'ils ne se gèrent pas très bien. Une des raisons aussi, c'est cette hausse des taux d'intérêt qu'il va falloir que les pays occidentaux assument d'une façon directe ou indirecte vis-à-vis des pays émergents. Et donc, si on veut éviter les flux migratoires, si on veut contrôler l'immigration, il faut inciter les gens qui habitent, notamment en Afrique, à rester dans leur pays. Et donc, il faut que leur pays soit vivable. Et pour rendre leur pays vivable, il faut y investir.
Il faut pivoter,
et privé. Oui. Nous sommes à la frontière technologique, on a des choses à leur apporter. Oui. Dans le respect, il n'est pas question de rétablir des rapports de type coloniaux, mais il faut ne pas négliger ces pays parce que sinon, ça se retournera contre nous.
Donc ce n'est pas sur ce poste-là qu'on fait des économies.
Et on ne fait pas des économies sur l'aide publique au développement.
Merci Jean-Marc. Allez, on fait un point à Euronext tout de suite. Antoine Larigauderi, compliqué cette séance, hein. Toujours pas beaucoup de dynamique.
Oui, on est en baisse là en ce moment, mais tout à l'heure on était en hausse. Hein, on sent vraiment un CAC 40 en manque total d'inspiration qui est autour de sa ligne de flottaison, mais toujours pas de dynamique pour nous faire sortir franchement dans un sens comme dans un autre. C'est un petit peu la même séance qu'hier qui s'est finalement terminée par une baisse. On reste dans le mouvement, hein, -0,41%, 6669 points pour l'indice parisien. On cherche des supports du côté de l'Eurostoxx 50, même chose, -0,3%, -0,38% pour le DAX à Francfort. Alors, c'est vrai qu'on a des marchés actions assez peu décidés. En revanche, il y a de la volatilité et du mouvement du côté du marché des changes. On en a beaucoup parlé hier de l'euro-dollar qui a flambé en direction d'1,06 avant de retomber. On est retombé du côté d'1,04 ce matin. Et puis, on s'est redressé 1,0505. La dynamique semble repartie avec aussi un effet taux, avec des taux d'intérêt qui ont tendance à respecter un certain écart entre États-Unis et Europe, ce qui provoque cette hausse de l'euro accompagnée d'un petit affaiblissement du dollar, il faut bien le dire. Mais cette volatilité provoque un petit peu de prudence du côté des investisseurs boursiers. D'ailleurs, les principales hausses sont signées en majeure partie par des valeurs plutôt défensives. On a Thales qui gagne 1,36% à 123,35€. On a Bouygues qui se redresse après sa séance difficile d'hier, hein, où il a signé la plus forte baisse du CAC 40 après une opinion négative de Bank of America. Là, le titre reprend 0,96% à 29,33€. Puis a signalé Airbus derrière qui gagne 0,8% à 111,20€. À la baisse sur le CAC, on a Eurofin Scientifique -2,27 à 66,16€. On a Renault -1,81 à 34,42€. Mais alors sur le SBF 120, très forte baisse de deux titres. Quadient, hein, l'ex Neopost qui a abaissé ses prévisions pour l'année, le titre perd 11,5% à 12,92€. Et puis Aéroport de Paris, très forte baisse, -13% à 128,60€. Flot de mauvaises nouvelles, des préavis de grève chez Air France, chez EasyJet pour les derniers week-ends de l'année. Et puis aussi l'annonce du solde des participations de l'aéroport de Schiphol à Amsterdam qui cède ses 3,9% qui lui restaient. Donc du coup, forte pression à la baisse sur Aéroport de Paris. L'euro 1,0505 et le CAC donc -0,38, 6671.
Très très vite sur les cryptos, Antoine.
Léger effritement, hein, on tenait bien le rebond, puis finalement on retombe sous les 17 000 pour le Bitcoin, 16 995 et l'Ether 1251.
Merci Antoine Larigauderie. Allez, dans un instant, on va parler fertilisant des sols, hein, 100% naturel, ça s'appelle le biochar. Stéphane Le Dentu, le fondateur et PDG du groupe forestier français SLB, sera notre invité dans deux minutes.
60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business. BFM Business, 60 minutes business, l'invité.
Là, le débat a déjà commencé avec Jean-Marc Daniel. Stéphane Le Dentu est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Fondateur et PDG du groupe forestier français SLB. Alors, vous allez nous parler de ce groupe, mais on va surtout parler de biochar, un fertilisant 100% naturel. Je vous avoue que quand j'ai dit biochar dans la rédaction, eh bien, personne ne connaissait. Vous allez nous expliquer ce que c'est déjà.
Oui, avec plaisir. Donc je vais reprendre l'origine. Le groupe SLB est spécialisé dans la forêt. Donc on fait des programmes d'afforestation au Brésil pour éviter la destruction de la forêt amazonie. Il faut apporter un produit de substitution. Donc l'éconologie, on l'a adoptée sur des terres agricoles que nous achetons qui sont dégradées. Et le but, c'était de rassembler aussi bien les compétences économiques que environnementales. Et pour ça, j'ai demandé à mes ingénieurs agro de travailler sur la diminution de l'utilisation de nos fertilisants. Et sur ce sujet, ils m'ont parlé de la terra preta qu'utilisaient les Amérindiens. Donc la terra preta, c'est le biochar d'aujourd'hui. Oui. Et celui-ci, si vous aimez mieux, il peut nous apporter plusieurs axes de développement, surtout sur la restructuration du sol.
La restructuration du sol qui peut servir partout. Expliquez-nous exactement comment c'est fait, à partir de quelle matière et à quoi, comment on arrive au biochar.
Alors le nôtre, il part de la forêt, donc de ce qu'on appelle les éclaircies dans nos forêts, puisque nous travaillons sur des régénérations naturelles. Et ce qui est très important, c'est qu'il est hors de question de décapitaliser nos actifs forestiers, quels qu'ils soient. Donc on va travailler sur ce qu'on appelle les dominés. Les dominés, c'est les accompagnateurs qui accompagnent nos chênes, nos hêtres, etc. C'est ces essences-là qu'on va extraire, qu'on va transformer en pellets, avant de pouvoir les pyrolyser.
Dans une usine, exactement.
Dans une usine qui est basée à Argentan.
En Normandie, vous allez en ouvrir une deuxième. Vous produisez, vous, chez SLB, combien de biochar par an ?
Alors, c'est une usine où on fait du biochar premium, du haut de gamme. Donc, 400 tonnes. Et avec la deuxième usine, nous allons produire 800 tonnes.
Jean-Marc ?
Est-ce que vous êtes pionnier ou est-ce qu'il y a beaucoup d'autres entreprises qui sont sur ce genre de produits?
Alors oui, on est le premier sur depuis 2015, parce qu'on a commencé l'aventure au Brésil. En France depuis 2017, aujourd'hui beaucoup de monde s'intéresse au biochar. Mais nous on a fait beaucoup d'études, si vous aimez, parce qu'on a des docteurs en sciences et des docteurs en eau qui nous accompagnent sur le qualitatif du biochar. Et évidemment, le biochar est vulgarisé aujourd'hui. Vous pouvez utiliser aussi bien du déchet. Mais nous on a vraiment orienté notre production sur une qualité de bois exceptionnelle. Mm-hmm. Donc c'est celle-ci, parce que tous les bois ne peuvent pas faire un biochar exceptionnel.
Alors concrètement, le biochar, ça fait quoi? Ça empêche d'utiliser trop d'eau sur les sols, ça retient le carbone, ça fait quoi?
Alors, nous...
On le répand sur le sol.
Alors, on travaille le sol, puisque nous plantons au Brésil, etc. On travaille en sous-soleuse. Et là, donc, on ne retourne jamais le sol, on le décolle. Et ensuite, on met le biochar à l'intérieur avec les fertilisants. Mm-hmm. D'accord? Mais son premier rôle, d'abord, c'était la rétention en eau. Nous, notre biochar est en mesure de consommer 50% d'eau en moins. Pourquoi? Parce qu'il est adsorbant. Adsorbant veut dire qu'il prend la matière dans ses cavités, comme le biochar, on l'a éclaté lors de la pyrolyse, on a ouvert tous les pores du bois. Mm-hmm. Et c'est celui-ci qui va pouvoir donner une surface spécifique importante pour récupérer d'abord l'eau, donc comme ça, ça évite que l'eau ruisselle dans les ruisseaux, repart très vite dans les rivières, mais aussi notre sol, comme le produit est carboné à 90%, donc il ne se dissout jamais. Grâce à ça, le sol est aéré. Et comme il est aéré, dès qu'il pleut, il devient spongieux. Et l'eau est vraiment profitable à nos plantes par la suite.
Jean-Marc.
Et alors là, vous le vendez à qui? Vous le vendez aux agriculteurs en direct ou...
Non, pas encore.
Vous le vendez à qui?
On a une AMM. Nous le vendons en particulier à travers notre site Terra Fertilis, pour ceux qui le souhaitent, qui sont un peu curieux, sur soigner le sol et non pas la plante. Parce que nous, on soigne le sol. La plante, c'est les fertilisants. Mmh. Le biochar, c'est le sol. Et autrement, on travaille beaucoup avec les viticulteurs. Nous travaillons avec les civiculteurs, évidemment, parce que c'est mon métier. Et ensuite, les collectivités et les mairies, où là, nous sommes présents déjà dans beaucoup de villes en France, qui nous font confiance pour la réduction de la consommation en eau, mais aussi pour décarboner la ville. Notre biochar, nous vendons le carbone, ce qu'on appelle le marché du carbone, sur une plateforme qui s'appelle Pure Earth, mais ce produit est au bénéfice de notre entreprise. Mm-hmm. Quand vous allez l'apposer dans le sol, etc., lui, comme il va assurer un succès au niveau de la plantation et au niveau de tout ce qui est ornement, eh ben, grâce à ça, on va capter plus de CO2, évidemment. C'est indirect, mais ça va dans le sens.
Alors, on comprend l'utilité, le rôle de votre produit. Est-ce qu'en termes de prix, c'est plus cher de faire appel à du biochar ou de traiter les sols d'une autre façon?
Alors, tout dépend de ce qu'on souhaite faire. Évidemment que ça a un coût.
Oui.
Celui-ci, par rapport à un fertilisant, il est à peu près aujourd'hui à l'hectare, c'est quasiment équivalent, si vous aimez mieux. Il y a, ne serait-ce que 6 mois en arrière, on était trois fois plus cher, pardonnez-moi. Donc là, aujourd'hui, si vous aimez mieux, nous, on travaille et on structure le sol. Et un sol qui est bon, c'est un sol qui prend de la valeur. Mm-hmm. Nous, on veut travailler, si vous aimez mieux, pour utiliser moins de fertilisants. Donc tout ce qu'on apporte, tout ce qu'on améliore au niveau de notre sol, c'est du chimique en moins dans nos sols. Parce que notre produit a été reconnu agro-bio, par EBC, Européenne Certification de Biochar, parce qu'il y a une certification au niveau européenne. Et c'est grâce à ça, si vous aimez mieux, qu'on est en mesure de restructurer, d'améliorer le sol.
Une dernière question, vous êtes combien, Jean-Marc a commencé à le demander, combien d'acteurs? Et je suis assez étonnée, le grand public ne connaît pas tellement le biochar finalement. Dans les milieux professionnels, on le connaît, le GIEC en parle énormément comme une solution très intéressante. Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'acteurs sur notre sol? Et est-ce que c'est appelé à se développer?
Normalement, ça sera appelé évidemment à se développer, en tout cas je l'espère en France. On le développe énormément au Brésil, on le développe en Égypte également, on le développe en Roumanie où nous sommes présents. En France, il faut changer les habitudes, c'est extrêmement compliqué. Et Dieu sait si puis l'outil qu'ont les investisseurs, etc., on ne les change pas du jour au lendemain comme ça.
Ouais.
Donc ce qui est intéressant, c'est de la pédagogie. Aujourd'hui, nous sommes le premier producteur en France, le seul reconnu AMM, autorisation de la mise sur le marché, et également reconnue sur ses capacités pour vendre avec Pure Earth sur les crédits carbone sur la bourse de New York. Mais actuellement, nous sommes les seuls producteurs de biochar premium. Vous avez des vendeurs de biochar qui viennent du charbon. Celui-ci est différent, il ne peut être utilisé que dans le béton et ou dans l'asphalte, mais surtout pas en agro.
Oui, c'est pas du tout la même chose.
Parce que là, on ferait l'effet inverse, et pourtant ça s'appelle biochar, et là, ça serait catastrophique pour notre produit, pour demain, en tout cas pour la France.
Merci pour ces explications, Stéphane Le Dentu. Merci d'être venu nous voir.
Merci beaucoup.
Fondateur et PDG du groupe forestier français SLB et producteur donc de ce biochar avec une deuxième ligne de production à Argentan pour 2023.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. C'est l'heure du top 3 du web.
BFM Business, 60 minutes business, le top 3 du web.
Le top 3 du web, votre moment, Jean-Marc. On commence par un appel à la grève ce mercredi à la SNCF. Grève qui, contrairement à celle du week-end dernier, ne devrait pas trop, peut-être moins gêner les usagers, Pierre.
Oui, alors cette fois, ce n'est pas un collectif de contrôleurs qui appelle à cesser le travail, mais trois syndicats, la CGT Cheminots, Sudrail et la CFDT Cheminots. Ces trois organisations syndicales veulent, avec cette grève, faire pression sur la direction alors que débute les ANAO sur les salaires. Une direction qui communique sur le fait que les quelques perturbations à prévoir demain concernent les TER dans cinq régions, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur, ainsi que les Transiliens en Île-de-France. Et je sais déjà ce que Jean-Marc va nous dire.
Et deux choses dans cette affaire. La première, c'est que on dit souvent il faut négocier, la direction n'est pas au rendez-vous, tout ça. La direction change. Et ça ne va jamais. Les syndicats sont toujours mécontents. Il y a peut-être un problème qui n'est pas celui de la direction. Et la deuxième chose importante, c'est que demain matin, je serai à Lille. Et donc, s'il y a grève, je ne pourrai pas rentrer pour participer à l'émission de demain.
Ça ne va pas du tout. Donc, ce n'est pas possible.
Pour l'émission de demain. Donc,
a priori, il n'y a pas de risque.
Ils ont intérêt à ce que le TGV Lille-Paris fonctionne.
On continue avec la pénurie de Doliprane pour enfants, Pierre.
Oui, pénurie qui fait beaucoup parler sur Twitter, avec la conjonction finalement d'une production toujours insuffisante de paracétamol. Les problèmes de production de flacons en verre qui est lié à l'envolée des prix de l'énergie. Et puis, il y a aussi appel à la grève chez Sanofi. Là encore, sur fond de NAO très tendu.
Ah bah, les NAO,
et puis, alors aussi, évidemment, le froid qui favorise la diffusion des virus et des bactéries chez les enfants. Bronchiolite, rhume, angine, otite et grippe chez Sanofi. On assure vraiment mettre les bouchées doubles pour mieux satisfaire la demande. Est-ce que ça vous étonne, Jean-Marc, que l'industrie pharmaceutique soit encore à la ramasse sur un produit aussi basique que le Doliprane, le paracétamol?
Oui, c'est assez surprenant. Écoutez, je réfléchis et ça fait longtemps que je n'ai pas vu de queue devant les pharmacies. J'ai vu des queues devant certains magasins, des gens qui attendaient pour les soldes et tout ça. Devant les pharmacies, une queue. Et donc, rien ne va plus.
On n'en est pas encore là, mais bon, ça, visiblement, ça inquiète quand même. Et on finit avec une nouvelle qui devrait réjouir ceux qui ont l'intention d'acheter un bien immobilier, Pierre, dans les prochaines semaines.
Oui, on sait que les banques sont de plus en plus sélectives avec ceux qui déposent des demandes de crédit, que ce soit des courtiers ou les clients. Mais une fenêtre de tir devrait s'ouvrir en janvier. En tout cas, c'est ce que dit Vous Financez. Depuis quelques semaines, on note une détente du taux d'emprunt d'État à 10 ans, qui est largement repassé sous la barre des 3%. Cette forte baisse, dit Vous Financez, si elle est durable, pourrait donc avoir un impact positif sur les taux proposés aux acquéreurs, sachant que cette baisse de l'OAT va se combiner avec le nouveau taux de l'usure pour le premier trimestre 2023. Et évidemment, cette petite note d'espoir, elle est aussi positive pour les vendeurs, Jean-Marc.
Ah oui, si le marché repart, tout le monde va être satisfait. Mais là aussi, sur ce marché, il y a quand même en ce moment beaucoup d'opinions contradictoires. Oui. Il y a ceux qui disent qu'on va vers un effondrement du marché, au niveau mondial d'ailleurs. C'est un peu la tendance du FMI en particulier. Et puis il y a Marie-Cœur de Roy qui nous dit qu'il faut acheter. Et donc moi, je fais confiance à Marie-Cœur de Roy, voilà. Donc il faut acheter.
Merci beaucoup en tout cas, messieurs. Merci Pierre Kupferman. Merci Jean-Marc. À demain, vous êtes
à
là.
À demain, j'espère.
Pas d'excuses.
Si je ne peux pas être là à cause de la grève de la SNCF, Ça ne va pas bien. Ça va pas aller, hein.
Elle est dans un instant BFM avec vous.
60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business. 60 minutes business. BFM Business avec vous.
BFM avec vous, Lorraine Goumeau nous a rejoint. On répond évidemment, comme tous les jours, à toutes les questions que vous nous avez posées, Lorraine.
À vos questions et puis à vos angoisses, notamment autour du sujet de la bonne communication du dirigeant, de la dirigeante. Comment on parle, à qui on parle, à quel moment, où conseillé par qui? Voilà quelques-unes des questions qu'on va essayer d'aborder tout de suite avec notre expert du jour, c'est Grégoire Kopp. Bonjour Grégoire.
Bonjour.
On va mal vous titrer, on va dire que vous êtes conseiller de dirigeant. Alors, première question, pourquoi aborder ce sujet et tenter de répondre à ces questions de communication avec vous en particulier? Quelle est votre expertise?
J'ai eu la chance de conseiller différents types de dirigeants. Je suis avocat de formation et puis après je travaille aussi bien dans le monde associatif que politique ou que l'entreprise, toujours auprès de dirigeants. Et donc ça amène à se poser beaucoup de questions sur quand parler, pour dire quoi, avec qui, par quels moyens. Surtout qu'aujourd'hui ça foisonne, on a beaucoup de possibilités.
Mais oui, on pense tous à des gens qui prennent la parole sur différents réseaux sociaux. Pas toujours avec le bon message. Donc la première articulation de notre réflexion, ça va être ça. Qu'est-ce que c'est qu'un bon message, Grégoire? Comment on peut définir les raisons de prendre la parole?
C'est la première question à se poser. Pourquoi prendre la parole? On peut avoir envie de le faire pour plein de raisons, des questions parfois d'ego, ce qui n'est jamais très bon conseil, mais aussi des questions stratégiques. Et donc quel message on a à dire? Quel positionnement on a? Qu'est-ce qui nous différencie? Comment sont les autres? Donc, il faut se poser toutes ces questions pour se dire, là, c'est maintenant que j'ai un message à faire passer, je le sais. Et après, on va réfléchir aux canaux et au moment. Mais d'abord, bien cibler son positionnement et qu'est-ce qui nous différencie et comment on travaille ce message.
Est-ce que vous avez un exemple de mauvais message? Typiquement, le genre de sujet sur lequel on ne doit pas communiquer quand on est dirigeant, dirigeante.
C'est se laisser un peu emporter par ses passions, la pulsion, où on nous dit, voilà, j'ai été invité par un journaliste à venir sur BFM Business, donc il faut que j'y aille. Et donc là, j'ai une actualité aujourd'hui, c'est que je lance ce nouveau produit ou je veux le lancer. Eh bien, j'y vais et je vais l'annoncer. Alors que c'est pas tout à fait prêt, qu'on n'a pas forcément tout sécurisé, qu'en interne, les gens sont pas forcément au courant. Et du coup, on va trop parler et dire des choses qu'on n'avait pas prévues et qui va peut-être nous desservir en externe comme en interne. Donc c'est pas parce qu'on vous invite à parler qu'il faut parler. C'est à vous de décider du moment de parler.
On parlait tout à l'heure de à qui on s'adresse quand on communique. Est-ce qu'aujourd'hui finalement on maîtrise encore cette donnée-là dans la mesure où les messages sont diffusés, ultra diffusés, peut-être de façon plus large que ce qu'on voudrait à la base?
Exactement, et ça peut exploser. On peut reprendre toute petite partie de votre discours, la mettre sur les réseaux sociaux et que ça buzz dans le sens inverse de ce que vous racontiez. Donc ça, il faut l'anticiper. La première chose, c'est que quand on est un chef d'entreprise, il y a ses salariés. Et en premier, il faut penser à eux. Et donc c'est très désagréable d'apprendre une nouvelle dans les médias. Donc parfois, pour des raisons de confidentialité, il n'y a pas le choix. Mais la première recommandation, c'est de penser à vos salariés. Donc à quel moment les informer eux pour qu'ils puissent connaître ce message, peut-être quelques minutes, quelques heures avant qu'il soit public. Et ensuite, quand vous allez sur le grand public, répétez, commencez par le message principal, notamment en télé ou en radio où ça peut aller très très vite, et restez sur des éléments assez simples, 1, 2, 3 points que vous allez expliquer, mais ne vous dispersez pas.
On va parler du bon endroit où communiquer pour rebondir sur ce que demandait Sandra. Il y a évidemment les canaux officiels et puis il y a les réseaux sociaux. Comment on déroule, quand on est un acteur corporate, la tête d'une entreprise plus ou moins grosse, un agenda, une stratégie d'endroit où on prend la parole?
Souvent, on va d'abord analyser ses cibles et parler à plusieurs endroits successivement. Quand il y a une prise de parole sur un sujet, on va la porter, bon, par exemple, d'abord en interne pour que les gens soient au courant. Et puis là, après, on va donner une interview en exclusivité, média print, télé, radio. C'est le schéma le plus classique parce qu'on veut que le grand public soit au courant de ce qu'on annonce. Mais parfois, si vous ciblez plutôt des investisseurs financiers, vous n'allez pas parler au grand public. Et donc là, venir sur une chaîne comme BFM TV, même si vous êtes invité, ce n'est pas forcément le plus judicieux. Peut-être qu'il faut faire sortir quelque chose plutôt sur BFM Business. Et après, il faut se poser la question de, est-ce que je suis dans quelque chose de très rationnel, ou là, on peut plutôt aller sur des formats papier, écrit, ou plus émotionnel, où là, il faut que ce soit incarné. Et là, du coup, on va mettre la vidéo, le son, pour donner une touche humaine, une touche de chaleur à l'information qu'on fait passer.
Quoi qu'il arrive, communication interne et communication externe sont intimement liées. On apprend souvent les nouvelles par l'extérieur quand on est salarié de son entreprise. Ça arrive encore beaucoup aujourd'hui. Il faut communiquer en interne d'abord. C'est obligatoire.
Ça dépend. Parfois, on peut pas le faire. Quand c'est un gros deal financier et que on veut pas que ça fuite, c'est très compliqué. Mais si on a géré dans ce cas-là un embargo, ce qui se passe avec des journalistes, on dit voilà, la news va être publiée à 17h et c'est là que vous allez envoyer un communiqué de presse. Le communiqué de presse sert à donner une vision maximale, mais en parallèle, vous aurez souvent donné une interview exclusive à un journaliste en particulier qui aura eu, lui, plus d'informations. Donc quand le communiqué part à 17h et que tout le monde l'apprend, bah, il y a aussi une interview beaucoup plus précise avec plus souvent de touches humaines, de mise en contexte qui va sortir partir en même temps. Et ça, on peut le donner aux salariés dans la minute. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas du coup l'apprendre parce qu'ils vont voir un bandeau sur BFM ou une dépêche AFP, ils vont l'apprendre parce qu'ils auront le mail au même moment. Et là, il n'y a plus de risque de fuite. Donc vraiment, pensez à l'interne et pensez à incarner aussi ce discours. Si c'est une nouvelle positive, eh ben, organisons quelque chose pour libérer la parole aussi en interne, parce que les gens peuvent s'en réjouir mais avoir des inquiétudes, ou organiser un événement festif. Ça va jusque-là. Et ça aussi, ça fait partie de la communication. Mais pour ça, il faut de nouveau revenir au début, savoir qui on est, comment on en parle, à quel moment, et penser à tout ce timing. Et puis, quand c'est une nouvelle internationale, il faut aussi penser aux médias étrangers et à la façon dont ça va être perçu. Et là, parfois, on n'a pas les contacts. Et je pense à des patrons qui peuvent être en province et qui n'ont pas forcément ces relations-là. Les réseaux sociaux, pour le coup, peuvent être très utiles parce que vous pouvez publier quelque chose en français, en anglais. C'est de l'écrit. Vous maîtrisez votre message. Vous l'avez fait relire potentiellement par des avocats. Et là, tout est cadré.
Grégoire, vous utilisez beaucoup le mot « incarner ». Justement, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un impératif de communication qui fait que les dirigeants, les dirigeantes se sentent obligés d'incarner la communication ? On pense beaucoup au recrutement, puisqu'Alexandra et l'équipe, on recrute tous les jours. Enfin, on fait venir deux personnes qui recrutent. C'est souvent les PDG qui viennent porter la parole de ce recrutement. Comment vous conseillez les entreprises avec lesquelles vous travaillez pour dire « bah peut-être ici, ça serait bien que ce soit le PDG, là, le ou la DG ?» Ici, le ou la dire comme, comment on répartit la parole ?
C'est le quatrième sujet qui est de l'incarnation effectivement du message, savoir qui va prendre la parole. Parfois, les patrons ont envie que ce soit eux, mais pas pour les bonnes raisons, parce que c'est pas le plus stratégique que ce soit eux. Déjà, quand on est plusieurs personnes à prendre la parole, on peut porter le message à plus d'endroits et de manière différente. Vous, vous incarnez en tant que dirigeant fondateur la vision, la mission de l'entreprise. Et c'est important parce qu'on est en période de recherche de sens. Donc là, il y a une incarnation pour savoir où va l'entreprise, qui est vraiment derrière. C'est pas déshumanisé. Mais derrière, certains de vos dirigeants ou même de vos salariés peuvent l'apporter à d'autres endroits. Et c'est là qu'on va, en fait, c'est une question d'escalader le discours. Ce discours que vous avez fixé, mûrement réfléchi, vous avez pensé le bon timing, en fait, il va être porté par d'autres personnes dans d'autres canaux qui peuvent être vraiment variés. Typiquement, les grandes écoles ou les moins grandes écoles, mais qui sont des écoles extrêmement attractives aussi, qui permettent en fait de, par différents types de salariés, porter le discours et de maximiser votre recrutement. Parce qu'on le sait aujourd'hui, la guerre, c'est la guerre des talents. Donc cette prise de parole a aussi pour objectif de donner envie à des gens de rejoindre l'entreprise et surtout le projet que porte cette entreprise. Donc chaque news ou information qui peut être très business doit aussi être pensée de cette manière-là, parce qu'en rebond, en ricochet, elle va être vue par d'autres.
La marque employeur aujourd'hui, elle est intimement liée à la communication ?
Oui, parce que c'est une communication qui est verbale et non-verbale, qui passe aussi dans comment est organisée l'entreprise, comment, quand vous rentrez, là, on rentre chez BFM, bah, on voit des choses, il y a, et ça parle, c'est très signifiant pour les gens. Donc, il faut aussi réfléchir à ce que vont percevoir les gens quand ils vont rentrer dans votre lieu, votre bureau, votre entreprise. Et puis, les salariés, à nouveau, c'est les premiers porte-parole de l'entreprise. C'est eux qui le vivent au quotidien, c'est eux qui vont raconter ça à leur famille, à leurs amis. Et donc, toutes ces nouvelles-là, il faut leur donner les éléments, et pas de manière top-down, descendante, quand on dit avec des éléments en langage, voici ce que vous devez dire. Non, mais c'est au niveau de la culture d'entreprise, on raconte une histoire dont ils vont pouvoir s'approprier et qu'ils vont pouvoir raconter à leur tour.
Petit cas pratique pour conclure, si vous deviez nous donner un top 3 des personnes qui communiquent le mieux selon vous à des postes de responsabilité en France ou en dehors de nos frontières, qui vous nous citeriez comme ça au débeauté ?
Bonne question, surtout qu'elle n'a pas été préparée, je vous remercie. Évidemment, en plus grand communicant, on pense à Elon Musk, avec des côtés très négatifs, mais en tout cas, c'est lui qui fixe le cadre des discussions. Et souvent, prendre la parole en premier permet de fixer ce cadre. Alors que quand c'est d'autres qui l'ont pris à votre place, vous allez courir pour rattraper sur une version qui a déjà été imprimée dans l'opinion publique. Lui, il passe son temps à fixer. Et là, on ne parle pas du fond de ce qu'il fait, on parle de la communication. C'est lui qui dicte le tempo. Donc là-dessus, il est effectivement très fort. En tant qu'autre patron, notamment dans la tech française, on a des patrons, je trouve, qui ont réussi à incarner leur entreprise, la façon dont ils se sont développés, pas seulement sur leurs produits, par exemple dans les fintechs, la banque assurance, mais aussi sur pourquoi ils ont créé une philosophie d'entreprise. Et quand on veut s'adresser aux jeunes, c'est extrêmement intéressant parce que c'est ça qu'ils vont chercher aussi. Voilà, je resterai là-dessus.
Voilà, deux exemples. Alors, on n'a pas tous les moyens financiers et l'amplitude sur les réseaux sociaux d'Elon Musk pour communiquer. Mais voilà, vous avez entendu la très stricte corrélation qu'il y a entre communication et puis voilà, le marché de l'emploi, la marque employeur. Merci beaucoup, Grégoire Kopp.
Merci,
Grégoire.
Merci à vous.
Dans un instant, BFM avec vous recrute. Restez avec nous.
60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business. 60 minutes business. BFM Business avec vous.
BFM avec vous recrute comme tous les jours. On a un chiffre très intéressant aujourd'hui. Lorraine a donné le nombre de postes pourvus ou à pourvoir depuis la rentrée, cette rentrée 2022, le 22 août dernier. Plus de 60 000 postes, Lorraine.
Oui, 63 844 postes pour être précis. C'est le nombre de postes qui ont été pourvus via notre antenne à midi, mais aussi en podcast, en vidéo à la demande, via nos employeurs. Donc vous voyez, le compteur monte. On espère, nous aussi, participer à l'amélioration du marché de l'emploi.
Ben oui, chez vous notamment, Laetitia Sylvestre, qui est votre première recruteuse, Lorraine.
Bonjour Laetitia, vous êtes responsable marque employeur et communication RH. On va rebondir sur notre sujet qu'on avait à l'instant auprès du groupe Saint-Gobain Distribution Bâtiment. C'est une filiale de Saint-Gobain, dont le PDG était ce matin sur Good Morning Business. Alors pitchez-nous en quelques phrases ce que vous faites très spécifiquement chez Saint-Gobain Distribution Bâtiment.
Bonjour, chez Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, donc c'est une filiale du groupe Saint-Gobain qui regroupe une vingtaine d'enseignes qui vendent des matériaux de construction comme Point P ou la plateforme du bâtiment. Et au total, on est 24 000 collaborateurs sur toute la France à conseiller et à travailler avec essentiellement des professionnels du bâtiment.
Et vous ouvrez 700 postes, parmi lesquels, quel type de postes?
Alors, on recrute pratiquement 3000 personnes par an, essentiellement pour nos points de vente, et puis des fonctions sièges. Donc, dans les postes à pourvoir, on recrute des vendeurs qui vont conseiller, qui vont accueillir les clients sur les produits, les solutions pour leur chantier. Ensuite, on a des postes de magasiniers, des magasiniers qui vont être en charge de la préparation et du chargement des commandes de nos clients.
Ceux qu'on voit pas.
Un peu quand même. On peut les voir puisque en fait c'est quand même aussi avant tout des postes de relationnel chez nous, puisqu'ils sont aussi là pour conseiller nos clients. Mmh. Et puis on a beaucoup de postes à pourvoir de commerciaux qui vont gérer en fait un portefeuille de clients, de professionnels, d'artisans et qui vont être au contact de ces artisans sur les chantiers.
Évidemment, vous avez précisé, vous êtes essentiellement en B2B, vous servez tout un marché de professionnels qui participent au secteur du bâtiment. Est-ce que ça va bien, quelque part,
le marché?
Vous pouvez nous aider à prendre le pouls. Est-ce que vous sentez que ça va?
Ah bah, le marché se porte bien, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des recrutements, des créations de postes. Donc oui, effectivement, les besoins sont croissants.
Est-ce que vous avez des endroits très locaux, où vous voulez insister sur vos besoins en recrutement? Parce qu'on le sait, vous êtes dans une logique d'enseigne, les enseignes elles sont inscrites dans les territoires. Donnez-nous quelques noms de villes ou des régions plus largement où vous avez besoin de bras.
Pas de région spécifique, on recrute vraiment sur toute la France dans nos 2000 points de vente, donc on a un maillage territorial assez important et des besoins vraiment sur toutes les régions.
Je vois que vous recrutez aussi des stagiaires, des alternants.
On accueille à peu près 1000 alternants et stagiaires par an dans toutes les enseignes et dans tous les métiers, que ce soit des métiers opérationnels mais aussi les métiers du siège.
Combien de métiers en tout chez vous?
On a plus de 200 métiers.
C'est quoi le plus dur à pourvoir?
Ce sont les postes d'exploitation. On recherche beaucoup, effectivement, de vendeurs, de magasiniers, de commerciaux, comme je le disais, également des chauffeurs. C'est vrai que comme on s'adresse à des professionnels, si on ne connaît pas des personnes qui travaillent dans le bâtiment ou qu'on n'est pas professionnel du bâtiment, ça arrive très, très rarement qu'on pousse la porte d'un de nos magasins.
Alors, ce n'est pas souvent que c'est dans ce sens-là, mais en l'occurrence, là, vous utilisez beaucoup le masculin pour décrire les typologies de postes. Est-ce que vous arrivez à féminiser certains de ces métiers, notamment, vous avez dit, beaucoup magasinier. On le sait, le secteur du BTP, en plus B2B, c'est peut-être plus masculin. Mais est-ce que la féminisation est un des moyens pour vous d'élargir vos recrutements?
Ça va dépendre effectivement des métiers. On a beaucoup de postes de vente, par exemple dans des showrooms, pour l'enseigne Envie de Salle de Bain notamment, ou Point P, où là, on a de plus en plus et majoritairement des fonctions, des personnes en fait féminines. Et on est tout à fait ouvert. On aimerait beaucoup plus se féminiser les autres métiers.
On note une politique de télétravail par ailleurs. Comment on postule, Lorraine? Alors, ça se passe sur le site qui s'affiche à l'écran pour ceux qui nous regardent en direct ou en vidéo à la demande. C'est carrière au pluriel .sgdb-france.fr. Et bien sûr, aussi peut-être dans les points de vente, on peut venir avec son CV pour essayer de parler directement au directeur ou directrice de magasin. Et puis on le précise quand même, hein, vous avez dit 700 postes à pourvoir et quasiment autant de stages et d'alternances sur l'ensemble du territoire français.
On va parler de logistique à présent avec Mario Checon, qui est votre deuxième recruteur, Lorraine.
Oui, on parle de Géodis. Mario, pitchez-nous Géodis en quelques mots.
Bonjour Lorraine, bonjour Sandra. Géodis, donc, c'est un groupe international à racines françaises. On a plus de 50 000 personnes qui travaillent pour Géodis au niveau mondial, dont 15 000 en France. Nous avons plus d'un siècle d'existence et nous opérons dans plus de 60 pays différents dans la planète. Donc Géodis spécialiste et champion de la logistique et du transport. Juste pour vous donner un petit détail croustillant, Géodis, il est probable que le poisson rouge que vous avez chez vous, par exemple en France, ait été transporté par Géodis pour l'amener au point de vente.
Vous avez entendu transport, logistique, mais aussi supply chain. Un secteur qui recrute, vous avez dit, vous êtes 15 000 en France, vous recrutez presque 600 personnes. Pareil, on ne peut pas lister tous les postes dont vous avez besoin, mais donnez-nous le top 5 des postes urgents à pourvoir chez Géodis France.
Absolument. Donc les affréteurs. Les affréteurs, c'est un métier qu'on connaît peu. C'est les gens qui organisent la distribution de tous ces colis, toutes ces marchandises et les points de livraison, les points de reprise, etc., les magasins, les entrepôts où ils sont stockés. Et donc, c'est les gens spécialisés dans ce secteur. Donc, on en recrute beaucoup. Aussi, on a des responsables de sites, d'agences. On a des conducteurs ou chauffeurs, comme on les connaît plus naturellement. Des gens aussi dans le métier de l'IT, dans le commercial. Il faut savoir que chez Géodis, en fait, on recrute pour un poste, mais en fait, on voudrait que les gens restent pour une carrière, que les gens viennent pour faire une carrière.
Et ça marche.
Et ça marche.
Vous avez un taux de rétention élevé.
On a un taux de rétention très élevé. Nous, on parle beaucoup de la grande démission. Nous, c'est vrai que on connaît pas trop ce phénomène chez Géodis, heureusement, parce que les gens restent très longtemps chez Géodis parce qu'ils font une carrière.
Vous avez beaucoup de stagiaires et d'alternants. Vous en accueillez très tôt dans leur carrière, justement.
Absolument. Nous avons une politique très volontariste. Plus de 400 recrutements par an de stagiaires et alternants qui sont autour. On a lancé un programme qui s'appelle Jumping, ouvert à l'ensemble de ces jeunes qui nécessitent avoir un stage pour qualifier ou pour valider un diplôme. Et depuis l'année dernière, on en a accueilli donc plus de 400 en France et partout dans le monde.
On a envie de vous poser la même question qu'à Laetitia tout à l'heure pour Saint-Gobain Distribution Bâtiment. On est sur des métiers plutôt physiques, plutôt sur des métiers attachés, en tout cas dans l'univers collectif ou le mien, pardon, à des postes masculins. Est-ce que la féminisation est un chantier pour le DRH que vous êtes? Est-ce que ça se fait naturellement, un peu au fil de l'eau, comme pour Laetitia?
Absolument. L'image du secteur de la logistique et du transport est très masculine dans l'inconscient collectif. Par contre, je dois vous dire que chez Géodis, 40% de notre effectif mondial est féminin.
Pas mal.
Donc, c'est quand même une bataille que nous menons. Il faut savoir que c'est le seul groupe français de logistique et de transport, même européen, qui est présidé par une femme, Madame Marie-Christine Lombard. Et donc ça nous aide énormément dans le message que nous transmettons et la volonté de la féminisation, non seulement de notre effectif, mais aussi des fonctions managériales, parce qu'aujourd'hui, nous avons plus de 32% de nos management féminins.
Affréteurs, responsables de site ou responsables d'exploitation logistique, conducteurs, conductrices, vous avez entendu tout type de conducteurs, des mécaniciens, des mécaniciennes, des chefs de projet informatiques. Quel est le plus compliqué pour vous en ce moment à pourvoir?
En fait, l'ensemble de ces métiers sont complexes à pourvoir. Nous avions connu une pénurie de conducteurs assez forte en fin 2021 et début 2022. Depuis, on a élargi l'ensemble de nos moyens de recrutement, essentiellement sur les aspects de réseaux sociaux. Mmh. Et du coup, on a eu une campagne de candidats énorme, ce qui nous a permis de, par exemple, en 3 mois, pourvoir 97 postes de conducteurs. Et on est très content que ça se passe comme ça.
Sur quel réseau vous avez travaillé?
On travaille sur des distributeurs des réseaux, mais c'est essentiellement sur LinkedIn. Mais c'est pas là où on trouve nos conducteurs essentiellement, c'est plutôt dans Facebook, dans TikTok, dans l'ensemble des réseaux sociaux qu'on connaît tous et sur lesquels on se positionne pour être au plus près de ces candidats.
Et qui touchent les jeunes, oui.
Et qui touchent les jeunes.
Où est-ce qu'on postule, Lorraine? Alors, ça se passe notamment sur injobtoutattaché.geodis.com et sur Jumping, vous avez entendu tout à l'heure, jumping.geodis.com pour tous les postes, y compris alternance VIE, stage et les premiers emplois. Et puis aussi, voilà, un maillage territorial très fort, donc peut-être près de chez vous, vous allez trouver une antenne, une branche de chez Géodis, groupe quand même qui date de 1904.
Merci, c'est merci bon. À tous les deux d'être venus. Demain, Lorraine.
Deux points, on prend le pouls de votre entreprise avec le patron des greffiers. Vous savez, les greffiers dans les tribunaux de commerce, et bien demain, on sera avec leur président qui vient vous donner ses bons conseils pour prévenir le risque de faillite, de défaillance, les signaux rouges et les signaux verts.
En attendant, émission à retrouver en podcast et en replay. Très bonne journée sur BFM Business. On vous retrouve demain à midi.
60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business.